7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle éducation, comme chaque vendredi. Et tout spécifiquement, on parle de l'orientation scolaire. Dans les systèmes francophones, c'est vrai que l'orientation se décide relativement jeune, à un âge où les jeunes, justement, ne savent pas souvent ce qu'ils veulent étudier. Ajoutez à cela les inquiétudes ou les désirs des parents et vous avez quelques discussions familiales un peu tendues, sans parler du manque d'informations dans plusieurs pays pour faire les bons choix. Alors, comment trouver sa voie? On va en discuter avec nos invités. Juliette Abadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et coach pour jeunes désorientés. Ou pas tout à fait. En tout cas, vous publiez Au secours, mon ado s'oriente. Amadou Boy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en orientation et en insertion au Centre d'information et de documentation jeunesse. C'est le CIDJ qui se trouve au centre de Paris, tout près de la Tour Eiffel d'ailleurs.
Absolument.
On peut le dire comme ça aux jeunes, comme ça, histoire qu'ils viennent s'orienter, trouver des infos. En même temps, ils font un tour à la Tour Eiffel.
Exactement. Sans rendez-vous d'ailleurs.
Hein. Exactement. Sans rendez-vous. Vous recevez ça, c'est important pour les jeunes.
Absolument.
On trouve énormément de documents, de brochures sur les différentes filières d'études dans ce centre public. La France est en plein débat sur les nouvelles procédures d'orientation après le bac. L'enjeu, c'est la réforme de l'accès à l'université. Et on en parlera bien sûr avec vous. On est également en ligne au Cameroun avec Joseph Bamda, qui est chef du service d'orientation scolaire au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, qui est un quartier de Douala au Cameroun. Et puis, on aura aussi Nahir Abakar, qui est cofondateur d'Afrique Campus et qui a organisé un tout premier Salon international de l'étudiant africain cette année, il y a quelques mois, à N'Djamena. Et quant à vous, les voisins, les voisines, appelez-nous dès maintenant si vous êtes parents, lycéens, étudiants. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages d'auditeurs. Afi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous dit: moi, quand j'ai fini mes études dans l'humanitaire, j'ai été poussée à faire du droit à l'université. Je n'ai suivi les cours que durant 2 mois. Je n'avais pas la conscience tranquille et au bout du compte, je me suis inscrite à l'université d'architecture contre l'avis de ma famille. Cette filière était soi-disant réservée aux hommes et aujourd'hui, je suis bien architecte. Voilà, quand on a une idée derrière la tête, il y en a certains qui ne la lâchent pas. Djibril, à Kaï, au Mali, quand je serai grand, je resterai nomade, un berger atypique qui construit puis forage route et j'étudierai la gytologie. Alors moi, je ne connaissais pas, vous connaissez gytologie? Étude des gisements de minerais.
D'accord.
Ah oui, on a été vérifié. Ah ben, il y a des jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire. Pour l'instant, je laisse les matières et les notes décider de mon orientation.
Ah.
Ouais. Bah, ça peut être pas mal, hein, finalement, bah, être bon partout, comme ça, ça laisse le temps de voir venir.
C'est un critère, hein, que le jeune puisse s'interroger, effectivement, sur les matières sur lesquelles il trouve intérêt, il excelle. Hein. Il ne faut pas que ce soit le seul critère, mais c'est un critère intéressant dans les choix qu'il a amené à faire.
Ouais. Une combinaison talent-désir.
Oui, c'est
absolument
ça. Ouais. Un internaute à Yaoundé, au Cameroun, chez nous, ce sont les notes qui orientent les élèves dans les filières qui n'ont souvent rien à voir avec leurs compétences. Hein, c'est marrant parce que ça me dit quelque chose, ça, chez nous aussi. Hein. Certains parents orientent leurs enfants dans des filières inadaptées juste parce qu'ils veulent réaliser leurs rêves ratés. Et c'est ce qui a failli d'ailleurs se passer pour moi, mais j'ai résisté. Alors appelez-nous maintenant pour dialoguer avec nos invités, 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous nous suivez en direct sur Twitter, sur Facebook et on est aussi sur Instagram.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
On est en ligne avec un auditeur, Cédar, qui est à Kinshasa. Bonjour Cédar.
Bonjour.
Alors Cédar, vous souhaitez nous parler de vos erreurs, de vos problèmes d'orientation. C'était il y a combien de temps?
Oui, il y a à peu près 7 ans passé avant que je puisse commencer l'université de Kinshasa.
Oui.
Quand j'ai fini mes humanités.
Ouais.
Mes parents voulaient que je puisse faire la médecine. C'était mon papa et mon oncle.
Ah, c'est ça. Donc, le papa et l'oncle avaient dit, tu seras médecin.
Oui.
Ouais.
Bon, ils n'avaient pas vraiment leur motivation.
Ouais.
Et moi, personnellement, je ne voulais pas. Mmh. Je ne voyais pas médecin dans ma vie.
Mmh.
Alors, ça a pris beaucoup de temps. Il fallait vraiment avec maman convaincre papa.
Ah oui. Il y avait deux clans dans la famille, en fait. Hein, c'est ça.
Oui, c'était un peu ça.
Ouais.
Et alors... En fait,
oui, c'est
on a pris beaucoup de temps pour convaincre papa. Et finalement, il était convaincu, il a accepté que je puisse faire l'informatique. Et quand j'ai fait l'informatique, j'ai signé en informatique. Parce que moi, j'ai trouvé que l'informatique, c'est ma passion, c'était quelque chose dont je voulais vraiment faire moi-même. Mm-hmm. Et puis, à la cité, à la famille, partout, je passe, c'est le même problème que je rencontre.
Ah oui, c'était... autour de vous, vous avez des amis qui ont eu des conflits comme ça, familiaux, pour décider de leur orientation?
Ah oui, bien sûr. Mmh. Autour de moi, j'ai eu à voir ces problèmes-là. Vous voyez que parfois, les papas qui sont en train de demander à l'enfant
ouais.
d'être économiste ou juriste, quelque chose comme ça.
Alors...
Mais parfois, au fond de l'enfant, il veut faire quelque chose du genre métier, beaux-arts ou... par exemple.
Oui, d'accord, je vois. Alors, les métiers qui sont vraiment gravés dans le logiciel, dans le disque dur des papas, là, à Kinshasa, c'est quoi?
Bon, c'est les papas ici à Kinshasa.
Oui.
Les papas veulent plus que les enfants puissent faire l'université, avoir des grands diplômes comme les diplômes de droit, les diplômes de l'économie.
Mmh.
Alors qu'en réalité, il y a d'autres enfants qui veulent être techniciens, qui veulent juste faire le beaux-arts, qui veulent faire quelque chose de la musique, par exemple. Alors c'est un conflit qui s'oppose trop souvent entre les parents et les enfants ici à Kinshasa.
Oui, d'accord. Donc médecin, avocat, économiste, si possible à la Banque mondiale, hein, bien sûr. D'accord, ça c'est le palmarès. Et puis en face, bah, on ferait bien du rap, on ferait bien du sport, on ferait bien de la peinture. Voilà. Eh bien, écoutez, le problème n'est pas spécifique au Congo, hein, si je peux vous rassurer. Merci Cédar de nous avoir appelé. Bravo, donc, puisque vous êtes informaticien aujourd'hui. Et je pense que vous n'avez pas trop de problèmes dans la vie. Hein. L'informatique, c'est pas trop mal hein, pour faire carrière. Juliette Abadi et Joseph Bomda. Bon, tout de suite, la discussion s'oriente quand même sur le conflit familial, hein, finalement. Oui, allez-y,
oui.
Juliette, vas-y.
Dans mon livre, la première partie, c'est vraiment ne projetez pas. Comment faire en sorte, quand on est parent, de ne pas projeter sa propre histoire personnelle, soit dans le lien typique de ce qu'on a fait soi-même, soit en réaction à ce qu'on a connu. Et en plus, en portant des lunettes générationnelles, parce que dans une génération, il y a 20 ou 30 ans, qui n'était pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui, ni économiquement, ni dans la trajectoire professionnelle que vont connaître ces jeunes.
C'est-à-dire ?
Bah, probablement, Amadou pourra le dire plus simplement, mais on a probablement une jeunesse actuelle qui va changer trois fois de métier dans sa trajectoire professionnelle. De métier, pas de structure, pas de façon de faire le travail, de métier. Donc l'orientation originelle ne sera pas déterminante de toute la vie professionnelle à venir.
Amadou Boy.
Oui, Juliette a raison. On ne fera plus le même métier comme papa et maman, comme grand-papa pendant 40 ans. Les évolutions professionnelles et les parcours professionnels ne seront pas aussi linéaires qu'avant. Pour revenir à la problématique entre guillemets conflictuel entre le choix du parent et celui de l'enfant, c'est quelque chose qui est très récurrent sur les entretiens qu'on a au CILJ. Bien sûr, le parent a cette envie-là de sécuriser le parcours de son enfant, ce qu'on ne peut pas lui reprocher. Mais en même temps, de l'autre côté, effectivement, cet enfant a des envies qui ne sont pas aussi sécures que celles du parent. Il veut faire de l'art, il veut faire de la communication, du marketing, il veut faire des choses, il va rencontrer du monde, il veut faire des choses qui l'inscrit dans quelque chose de très interculturel. Donc, d'ailleurs, c'est d'où le café des parents qu'on a initié au CIDJ pour effectivement inviter les parents à trouver la juste place tout en jouant leur rôle d'orientateur auprès de leurs enfants.
Ouais. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, officiellement, les parents disent que leurs enfants sont libres de choisir leurs études. Ou à la différence du continent africain où les parents assument dire oui, non, j'ai un droit de regard, d'autant plus que parce que je vais financer en partie les études de mes enfants, etc. Mais dans la réalité, quel est, dans un pays comme la France, vous qui recevez justement les parents, les enfants, quelle est la part des projections des parents sur l'avenir professionnel de leurs enfants? Comment en fait, l'air de rien, ils essayent de peser de tout leur poids sur l'orientation.
Moi, je leur dis souvent, soyez fiers d'être parents et assumez votre désir d'influence, mais ne manipulez pas.
Donc... Influencer sans manipuler ?
Influencer sans manipuler, oui, d'autant plus que la question que vous posez, moi je l'ai connue personnellement, ayant fait ma scolarité en Afrique, donc c'est quelque chose que je connais très bien. Exerçant en France, effectivement, je connais aussi ce problème-là avec des parents, on va dire français. Mais oui, comment les parents font pour impacter sur l'orientation de leurs enfants ? Ils parlent beaucoup de chômage. Ils parlent beaucoup d'emploi. Quand ils viennent en entretien, pourquoi vous ne le dites pas, monsieur le conseiller, qu'il faut qu'il fasse un bac S? Pourquoi vous ne lui dites pas que, effectivement, la classe prépa regarde ses dossiers scolaires, effectivement, et la voix qui s'impose à lui? Alors que, moi, dans l'idée, c'est que il faut que je prenne en compte l'intérêt de l'enfant, quelle que soit la qualité de son dossier scolaire, et que il a beau être un excellent élève, s'il a aucun intérêt sur une classe prépa maths, physique, sciences de l'ingénieur, on peut supposer qu'il réussira pas. Donc l'idée, c'est de trouver, comme disait tout à l'heure Juliette, un point d'équilibre entre l'intérêt de l'enfant et la raison vers laquelle on va inviter le parent.
Ouais, et vous, Juliette Abadie, les parents, qu'attendent-ils de vous ?
J'avais une anecdote en tête la semaine dernière au cabinet. J'ai donc un jeune en terminale et son papa, je reçois d'abord le jeune, qui me dit, moi, mon rêve, et je fais tout pour ça, à 17 ans, je veux être champion de jeux vidéo. Et donc, il fait déjà des compétitions, enfin, il est déjà au top niveau. Et il est en terminale, et sa scolarité ne se déroule pas au top. Et donc, il m'explique que son projet idéal,
c'est... Il y a des jeunes qui gagnent de l'argent, d'ailleurs, il faut bien le dire, avec des compétitions de jeux vidéo. Hein.
Il était très bien parti là-dessus. Donc, quand le papa arrive au bout de trois quarts d'heure d'entretien avec le jeune, j'explique au père qui est en train de me dire « ça n'est pas un projet », je lui dis « si, c'est un projet, mais c'est comme champion de sport de haut niveau, il y a très peu d'élus, et donc il vaut mieux avoir un projet B ». Et donc, le papa me dit « ah non, c'est pas un projet B, le projet A, c'est le bac ». Et bac plus 5. Et voilà, on est au cœur du conflit, en fait.
Donc vous êtes des diplomates de haut vol, finalement.
C'est ça, aussi des diplomates de l'orientation. Parce que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les parents, il faut le dire, c'est quand même eux qui connaissent souvent beaucoup mieux leurs enfants. Parce que les ayant vus grandir, connaissant leurs aptitudes, leurs compétences. Avec peut-être pas la distance requise pour faire de l'orientation, mais en tout cas, ils ont leur mot à dire. Donc c'est justement dans le cadre du Café des parents qu'on initie au CIDJ. L'idée, c'est vraiment de rassembler les parents et de leur faire partager les problématiques relatives à l'orientation qu'ils rencontrent par rapport à l'orientation de leurs enfants. Et puis avec un conseiller qu'on essaie effectivement de les aider à trouver la bonne place, tout en respectant l'intimité du jeune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quand même pas évident pour un jeune de 18 ans face à des filières nombreuses qu'il est amené à faire un choix, à savoir qu'est-ce qui l'intéresse et que cet intérêt-là perdure pour les prochaines années.
Sachant que c'est pas forcément le centre de sa vie, qu'il y a plein d'autres découvertes à cet âge-là.
Donc il faut avoir un peu d'humilité et respecter parfois ce choix-là qui n'est pas quelque chose d'évident.
On continue bien sûr la discussion, nous ouvrons le standard, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques secondes, on prend un autre auditeur.
Sept milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
On dit quoi ? On dit orientation. Aujourd'hui, écrit en majuscule, ça s'appelle prise de tête pour les adolescents. Légère inquiétude pour les parents. Youssouf est en ligne avec nous. Vous êtes à Foumdane, au Cameroun.
Oui, bonjour, madame Bassit.
Vous avez 25 ans, Youssouf, et vous avez passé votre bac il y a déjà un certain temps, en 2010.
Exactement, madame.
Alors, où en êtes-vous aujourd'hui ? Quel est le problème, Youssouf ?
Oui, Emmanuel, après mon baccalauréat, mes parents ont décidé que je m'inscrive dans une filière économique à l'université. Et un choix qui ne carrait pas avec mon parcours secondaire et qui m'a valu, Emmanuel, 5 ans d'études au lieu de 3. Donc, présentement, je suis en master.
Oui. Bon, c'est pas la catastrophe. Vous avez mis 2 ans de plus, vous êtes en master, vous n'êtes pas dans une situation catastrophique, mais finalement, aujourd'hui, vous estimez que vous n'êtes pas dans la bonne filière, c'est ça, Youssouf ? Quel est le problème exactement ?
Non, c'est pas que je ne suis pas la bonne filière, c'est que le choix a été fait par les parents sans tenir compte de mon parcours au secondaire.
Qu'est-ce que vous vouliez faire exactement, Youssouf, si vous aviez été complètement libre de choisir?
Moi, je voulais être enseignant de mathématiques puisque j'ai eu un baccalauréat scientifique.
Oui.
Exactement. Et les parents ont décidé que, pour eux, c'est que je vais être très content dans la vie. Ils m'ont orienté dans une filière économique.
D'accord. Bon, le lien, c'est qu'il y a des chiffres aussi, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous voulez faire, expert comptable. D'accord. Vous voulez vous dédier à l'avenir des jeunes en étant prof de maths. Et Dieu sait qu'on en manque, des bons profs de maths. Nous sommes en ligne avec un conseiller d'orientation au Cameroun, Joseph Bomda. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Douala, Joseph Bonda, vous êtes chef du service d'orientation scolaire au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Vous venez d'entendre ce jeune qui a mis déjà 5 ans à obtenir sa licence parce qu'il n'était pas motivé en sciences économiques. Ses parents veulent qu'il devienne expert comptable, il veut être prof de maths. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 25 ans au Cameroun et qu'on est dans cette situation-là, Joseph Bonda?
Bon, il faut dire que la situation de notre...
Youssouf.
De Youssouf, c'est une situation qui est vécue par beaucoup de Camerounais au Cameroun. Parce que souvent, les orientations sont faites sans tenir compte des réalités du monde de l'emploi. Mm-hmm. Le fantasme des parents prend souvent le dessus sur les potentialités réelles des élèves qui, eux-mêmes, n'ont pas toujours la latitude d'avoir la bonne information. Mm-hmm. Ben, néanmoins, il y a des structures publiques qui sont de plus en plus mises sur pied pour accompagner et aider les élèves dans les choix. Et quand ils ne se sentent pas bien dans leur foi, et cette structure participe à leur réorientation. Mmh. C'est le cas du Centre d'orientation scolaire universitaire professionnelle, qui dépend du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Mmh.
Mais a priori, quand on a une licence en sciences économiques au Cameroun, on peut rebifurquer vers les mathématiques pour devenir enseignant en mathématiques ou pas?
C'est possible. Sauf que les conditions d'accès dans les écoles normales supérieures, notamment pour la filière enseignant mathématiques, exigent que le candidat dispose d'une licence en mathématiques.
Mmh. Eh oui, donc.
Bon, dans son cas, ce qu'il peut faire, c'est aller à l'ENAM, à l'École nationale d'administration et de magistrature, où il peut faire impôt ou bien faire trésor.
Ah, non, mais c'est pas ça. Il veut être prof de maths. Il veut pas être fiscaliste.
Il veut être professeur de mathématiques avec une licence en sciences économiques dans le contexte camerounais. C'est très difficile d'entrer dans une école normale supérieure. Mais néanmoins, un établissement privé peut l'envoyer dans une école normale comme auditeur libre. Mmh. Il se voit une formation pour sortir
pour se remettre à niveau.
Dans ce sens.
Bon. Oui. Youssouf, vous avez entendu les conseils de Joseph Bonda?
Il va falloir faire forcément
une remise à niveau, mais il faut poursuivre ses aspirations et ses rêves.
Hein. Oui,
allô? Oui, Joseph Bonda.
Oui, moi j'encourage Youssouf à exploiter les nombreux services qui sont mis sur pied pour aider les jeunes diplômés à pouvoir trouver leur chemin. Il y a le Fonds national de l'emploi qui fait un travail formidable. Il y a un programme intégré d'appui et d'aide à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc, il y a de nombreux programmes que Youssouf peut bien voir tant au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qu'au niveau du ministère de la Jeunesse.
Youssouf, on vous souhaite bonne chance. Il ne faut pas abandonner vos rêves. Joseph Bonda, vous allez rester en ligne avec nous. On va se retrouver après le flash parce que vous allez nous parler un peu de la situation dans votre lycée. Il y a 4500 élèves et il y a des séances régulières d'information pour tous les niveaux, pour toutes les classes. Mais néanmoins, on le voit bien, la connaissance de soi-même à cet âge-là est très compliquée. Vous aussi, vous remarquez tous les deux, Juliette Abadi et Amadou Boy, que il y a des jeunes qui se réorientent en fait en cours d'études avec ce sentiment d'année gâchée finalement, Juliette Abadi.
Moi, je dirais que c'est les parents vont parler d'années gâchées. Je ne suis pas sûre que ce soit des années gâchées pour ces jeunes. Alors, il n'en faut pas 10 à la suite, hein. Mais une ou deux années finalement à se chercher à 18 ans, qu'est-ce que ça représente dans une trajectoire professionnelle?
De 45 ans, vous avez raison. Il faut le rappeler. Oui.
Non, absolument. Après, c'est vrai que c'est une expérience, hein, l'échec. Hein. Aujourd'hui, dans nos entretiens, on essaie aussi de prendre en compte l'échec comme étant une vraie expérience de permettant de se positionner sur quelque chose qui amène vers la réussite. Mais pour autant, si dès le lycée, on peut commencer à construire des choses, à avoir une photographie de ce que sont ses intérêts et l'orienter vers des choses qui pourraient réduire le risque d'échec, entre guillemets, tant bien même cet échec est une expérience.
Alors justement, on va le voir dans quelques minutes après le flash, comment essayer de mieux se connaître quand on est parent, mieux connaître ses enfants aussi, quelles sont les questions qu'il faut se poser en famille. Vous restez avec nous, les voisins, bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes, 7 milliards de voisins consacrés à l'orientation.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. On parle d'éducation comme chaque vendredi et plus spécifiquement de l'orientation scolaire. Avec vous, Juliette Abadi, vous êtes psychologue, vous avez publié Au secours, mon ado s'oriente. C'est vraiment un livre de conseils pour les parents puisque, vous nous le disiez en première partie d'émission, ce sont les plus stressés par rapport aux adolescents en fait. Hein. Les jeunes ne sont pas si stressés que cela. Amadou Boy, vous êtes conseiller en orientation et en insertion au Centre d'information et de documentation jeunesse à Paris. Vous recevez les familles, les parents, les jeunes, tout type de milieux sociaux d'ailleurs.
C'est ça.
Vos appels et vos questions, les voisins et les voisines, 33 1 84 22 71 71. Joseph Bomda, nous étions en ligne avec vous en fin de première partie. Vous êtes chef du service d'orientation scolaire au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. C'est un quartier de la périphérie à Douala au Cameroun, 4500 élèves. Je sais qu'il y a des séances régulières d'information pour toutes les classes. Alors, avec bien sûr les classes en priorité qui vont avoir des choix à faire en orientation, la classe de troisième, la classe de seconde où on affine son orientation, la classe de terminale. Aujourd'hui, quels sont les principaux problèmes que vous voyez chez vos élèves, Joseph Bomda ?
Bon, le problème le plus souvent, c'est le manque d'information. On assiste à une forme de stéréotypie professionnelle où tout le monde fait dans l'administration publique, être fonctionnaire et attendre un salaire en fin du mois. Malheureusement, le secteur public ne peut pas employer tout le monde, contrairement au secteur privé qui est en gestation et qui demande beaucoup de compétences.
Il y a encore, dans un pays comme le Cameroun, où on voit une dynamique de PME qui est incroyable sur le plan économique, hein, de petites et moyennes entreprises, les jeunes rêvent, enfin, ou les parents projettent encore sur leurs enfants le rêve du fonctionnaire.
Justement, parce que le plus souvent, les parents pensent qu'être fonctionnaire garantit une sécurité salariale à long terme. Et le plus souvent, ça trahit aussi la peur de l'initiative et la peur du risque. Ouais. Pourtant, à l'expérience, ce sont les unités de production informelles qui donnent beaucoup d'argent au Cameroun. C'est pas le fonctionnariat qui donne beaucoup d'argent.
Bah oui.
Et dans notre cas, donc, les classes...
Mais alors, les parents qui sont commerçants et qui gagnent bien leur vie, par exemple, ils rêvent pour leurs enfants qu'ils soient fonctionnaires.
Oui, parce que pour eux, être commerçant ne garantit pas la fiabilité, la chute de coûts des matières premières, les risques liés au marché des biens et services, amènent les parents à vouloir sécuriser la vie de leurs enfants en leur assurant un matricule à la fonction publique.
Oui.
C'est pour ça que l'enseignement général va absorber le gros des effectifs au détriment de l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui pourtant... comme je l'ai déjà dit, est le creuset du développement du Cameroun. Et en ce qui nous concerne, sans empêcher aux uns et aux autres de faire l'enseignement général, nous prenons la peine d'indiquer les autres filières qui existent, les conditions d'accès, les contenus d'enseignement, et surtout nous montrons le rapport avec l'épanouissement individuel et la réalisation d'un travail socialement rentable.
Ouais. Mais quand vous parlez de l'enseignement technique, vous parlez dans le vide, en fait, dans les réunions, c'est ça ?
Les séances d'information et d'orientation en salle de classe sont prévues pour une période de 6 heures hebdomadaires.
Ouais.
Et les contenus portent sur l'aide à la connaissance de soi, l'aide à la connaissance des milieux de formation et l'aide à la connaissance du marché de l'emploi. Donc, nous aidons les élèves à connaître le milieu et à pouvoir choisir par eux-mêmes et assumer leur choix.
Oui, choisir par eux-mêmes, si tant est que les parents soient d'accord une fois qu'ils reviennent à la maison avec des idées de métier. Vous militez beaucoup, Joseph Bomda, pour un droit à l'information scolaire.
Oui, lequel droit est d'ailleurs prévu dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Et au Cameroun, la loi d'orientation, tant de l'éducation que de l'enseignement supérieur, prévoit justement la vulgarisation, la démocratisation de ce droit.
Oui.
Oui.
Pas seulement le droit à l'éducation, mais à l'information sur l'éducation. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Peut-être un mot de commentaire à Amadou Boy.
Oui, enfin, je note que effectivement, l'Afrique étant un marché potentiel, c'est assez curieux que la fonction publique soit effectivement les débouchés visés par les jeunes les étudiants.
Par leurs parents, Amadou. Joseph nous dit par les parents.
Finalement, oui. Quels que soient les continents, on est de la part des parents dans des stratégies de sécurisation, oui. En fait. Hein, c'est ça.
Oui. Moi, en tout cas, je trouve que le parallèle avec la France est vraiment possible. C'est-à-dire qu'on a vraiment un désir des parents de trouver la sécurité dans un marché de l'emploi qu'ils envisagent très difficile, compliqué, avec une projection de « mon jeune va avoir du mal à trouver un emploi, à s'autonomiser ».
Jeunes que vous recevez
Quand on interroge les jeunes, alors Amadou pourra rebondir dessus, mais oui, bien sûr, ils ont besoin de s'interroger sur « est-ce que je vais trouver un métier ?». Mais quand on leur demande « et donc pour gagner beaucoup d'argent, pour faire mieux que tes parents, pour… » Non, pour être heureux.
Oui.
C'est la grande différence.
Si possible, sans trop travailler.
Et si possible, en tout cas, ils ne se tueront pas au travail. Ça, c'est leur grande phrase. C'est-à-dire que versus une génération au-dessus qu'ils ont vu être décimée en partie par le monde du travail, ils n'ont aucune confiance dans le monde de l'entreprise.
Ils ont un peu plus confiance. S'ils doivent se tuer au travail, qu'ils se tuent au travail, quelque chose qui leur plaît.
Une vraie passion.
Cette notion de plaisir, de faire quelque chose qui me plaît. Quand les jeunes en terminale viennent et disent « je ne sais pas quoi faire », se intéresser par beaucoup de choses. Enfin, concrètement, nous, comment on s'y prend? On va essayer de faire passer des tests. C'est pas la panacée, bien évidemment.
Comment ça marche, ces tests?
Des tests où on répond à une série de questions. Bien évidemment, ça n'a rien de miraculeux, mais c'est une aide à la décision qui permet déjà aux jeunes de prioriser certains axes de questionnement.
Quel genre de questions on a dans ces tests?
Ça peut être des questions sur, en tout cas, pour évaluer est-ce qu'il y a un intérêt pour un travail manuel, est-ce qu'il y a un intérêt pour travailler dans un endroit qui est fermé, est-ce qu'il y a un intérêt pour travailler sur quelque chose qui est en lien avec les SVT, les sciences du vivant, avec la recherche, est-ce que c'est pour faire quelque chose d'assez court, parce qu'il y a des jeunes qui vous disent, ok, moi j'ai fait une filière générale, mais le bac plus 5 c'est pas mon truc, j'aimerais bien faire quelque chose de rapide en 2 ans qui me rend professionnel, opérationnel et aller rapidement sur le marché du travail. Donc c'est toutes ces demandes-là multiples, et donc c'est pourquoi la demande, il faut qu'elle soit individualisée.
Juliette Abadi, sur les tests, il y a aussi des tests plus de personnalité où on demande aux jeunes de réagir à des images, notamment.
Alors les images c'est un peu fini en tout cas dans le monde de la psycho. Mais néanmoins, on essaye vraiment de combiner. Finalement, si l'orientation devait être idéale, ça serait la bonne combinaison du talent, de la compétence et du désir.
Et comment on connaît le talent d'un jeune à 17, 18 ans?
Mais en fait, le problème, en tout cas en France, c'est qu'on s'y intéresse en général à 17 ans. Alors qu'un talent, ça naît et ça pointe son nez bien avant 17 ans, possiblement. Et ça va continuer bien plus longtemps derrière.
Donc les parents sont myopes, ils voient qu'une partie de leur enfant.
En fait, je pense que c'est vraiment, ils pourraient porter une bonne paire de lunettes, mais plutôt pour essayer d'être révélateur de leur enfant, entre autres sur la notion de talent. Parce qu'un talent, vous savez ce que c'est, un talent, on ne voit pas qu'on est en train d'exercer un talent, puisque ça ne fait consommer aucune énergie. C'est simple, c'est naturel, et donc on pense que c'est normal.
Vous pensez là à des expériences, à des rencontres?
Oui. Je pense à une jeune fille qui savait très bien s'exprimer devant sa classe. Et donc, il faisait des exposés constamment. Mais elle trouvait ça totalement naturel. Elle ne voyait pas où était le problème. Et quand on a soulevé cet aspect-là de communication, pour elle, c'était un non-sujet. Et ses parents disant, oui, bien sûr, elle sait très bien communiquer à chaque fois qu'on est devant la famille, les choses, elle se met
en public.
Et pour elle, c'était, en fait, elle ne l'avait pas repéré comme un talent. Et donc, l'idée d'une orientation, par exemple, dans cette matière, n'était même pas questionnée.
Bien évidemment, c'est les compétences qu'on acquiert avant même d'aller les trouver à l'école. C'est le potentiel de l'enfant, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Effectivement, ils sont bourrés de talents et d'aptitudes. Donc nous, on essaie effectivement de mixer les compétences acquises à l'école dans le cadre de la terminale ou du bac, les compétences naturelles liées à la famille, liées au parcours de l'enfant, ses pratiques sportives.
Oui, j'allais dire en dehors de l'école aussi.
Ses compétences extra-professionnelles, cet ensemble de choses, la documentation. Joseph, j'ai oublié le nom, l'évoquait tout à l'heure. C'est la base, parce qu'à un moment donné, le jeune aussi, quand il est devant le conseil, il attend à ce qu'on lui fasse de la magie, c'est-à-dire qu'on lui dise quel est son projet pour les 20 prochaines années. Non, il faut d'abord prendre connaissance des choses qui existent. Donc c'est une phase de documentation d'information à partir de laquelle, quand il vient en entretien, on peut échanger.
Ouais, et il faut se donner un peu de mal aussi hein, pour lire de la documentation, lire ce que font les écoles, etc.
Comme ça, en entretien, on peut échanger.
Ouais.
Mais si le jeune arrive et n'a pas aucune information, c'est difficile, effectivement, d'être dans l'échange avec lui.
Juste là-dessus, Emmanuel, je trouve que c'est essentiel ce qu'on est en train de dire, parce que vous voyez bien à quel point, si le jeune n'est pas accompagné, naturellement, je vous rappelle, hein, le temps de l'adolescence est quand même un temps qui est entre suspendu, où il ne se passe rien et on attend de voir, où on resterait bien dans le monde de l'enfance et de l'inconscience, et voire une forme d'immaturité, et un passage vers un monde adulte, mais où là, il faudrait tout raisonner, et ça ne le tente pas des masses, des masses.
Ça s'annonce donc, violent quand même, hein,
voilà,
comme transition.
Donc cette recherche d'information, bon, il faut l'accompagner.
Alors nous sommes en ligne avec Nahir Abakar, bonjour.
Bonjour.
Nahir, vous êtes cofondateur d'Afrique Campus, qui est un site d'information. Vous êtes tchadien, vous avez fait une partie de vos études en France. Vous avez voulu vous investir pour informer davantage les jeunes sur les possibilités d'études, mais à l'échelle davantage panafricaine.
Exactement. En fait, on a fondé l'initiative Afrique Campus avec mon ami d'enfance, sur un constat très simple. Le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants africains qui sont en manque d'informations et qui se posent les questions d'orientation un peu trop tard. Souvent, par exemple, pendant mes études, j'ai eu des appels de connaissances pour me demander est-ce que je peux leur trouver une école, est-ce que je peux leur trouver des inscriptions, etc. Et souvent, c'était trop tard. C'est souvent en août ou en septembre. Et comme vous pouvez le savoir, la majorité des écoles sont fermées ou ont bouclé leurs inscriptions.
Oui. Alors, il faut savoir que dans un pays comme le Tchad, les étudiants, bon, d'abord, font souvent des années blanches directement après le bac, faute de place à l'université. Je crois que d'ailleurs, la rentrée universitaire n'a toujours pas eu lieu, non, me semble-t-il, N'Djamena. Et puis sinon, on a ces résultats du bac, de toute façon, au mois d'août. Et donc, les écoles, les universités sont déjà bouclées.
Exactement, c'est ça le constat et c'est ça le problème du fait qu'avec leur note, leur relevé de notes en août, l'étudiant est confronté à pas trouver d'école et du coup il est amené à faire une année blanche. Donc souvent ils font des choix par défaut du fait que bon, en attendant de trouver une école, je vais faire une autre filière ou apprendre l'anglais ou apprendre une autre langue. Mmh. Et souvent l'élève n'a plus de repères. Mmh. Et donc, avec notre plateforme, on essaye vraiment d'accompagner ces élèves, ces étudiants, avec beaucoup d'informations et une information à temps, à partir de la seconde, à partir de la troisième, comme ça, pour accompagner l'élève et se prendre en main très rapidement.
Ouais. Vous avez monté un salon d'orientation il y a quelques mois au Tchad, qui a évidemment eu beaucoup de visiteurs. On voit bien que c'est un sujet qui intéresse les jeunes. Restez en ligne avec nous, Nahir, vous pouvez réagir quand vous voulez. On donne la parole à un auditeur, Hissène, qui nous appelle de N'Djamena, justement, 33 1 84 22 71 71. Bonjour Hissène.
Bonjour madame.
Vous avez 22 ans, Hissène, vous avez le bac, série scientifique. Vous avez obtenu ce bac en 2015. Alors, quel est votre problème aujourd'hui?
Oui, comme je l'avais dit sur mon cours, je suis bachelier en série scientifique depuis l'an 2015. Et j'ai rencontré pour la première fois un problème compliqué dans mes études. En fait, pendant mes études secondaires, je me sens très content dans ma matière.
On a un petit problème de ligne téléphonique, Hissène, je suis désolée, on vous entend très mal, mais j'ai votre message sous les yeux. Hein. En fait, vous vouliez choisir une filière littéraire, tout le monde vous a poussé à faire une filière scientifique, parce que je pense que vous n'étiez pas mauvais en maths quand même. Et on vous disait dans votre entourage qu'une filière littéraire, on n'avait pas un bon métier. Vous avez suivi ces conseils, vous avez eu votre bac, mais avec des résultats, d'après ce que j'ai compris, assez moyens. Et donc, vous n'êtes pas accepté à l'université. vous le vivez comme un échec et donc vous souhaiteriez savoir comment vous réorienter finalement. C'est un problème qu'on rencontre aussi en France hein, d'ailleurs.
Bien sûr, beaucoup.
Le bac S où on ne va pas avoir des notes finalement mirobolantes.
On est d'accord et d'ailleurs on préfère conseiller à un jeune de faire un bac entre guillemets en dessous du bac S que les parents lui imposent, et de faire ce bac-là avec une mention et un excellent dossier scolaire, que de faire un bac S en y laissant beaucoup de plumes. C'est-à-dire, j'aurai peut-être mon bac, peut-être pas, mais avec un dossier scolaire assez pas terrible.
Ça veut dire qu'il faut quand même bien, il n'y a pas que on parlait des talents, des aspirations personnelles, des rêves des jeunes, il y a quand même aussi le principe de réalité des bulletins scolaires, non? Juliette Abadi.
Bien sûr, mais qui viennent valoriser l'étude scolaire. Et il y a tellement d'autres choses dans la vie, en plus de l'étude scolaire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre en compte.
Pour rentrer dans une filière universitaire, enfin en tout cas d'études supérieures...
De toute façon, Parcoursup, tel qu'il est prévu, désormais, à partir de janvier, prendra en compte d'autant plus ces fameux quotas de réussite scolaire. Et tant mieux, je ne suis pas en train de le sacrifier au passage, mais je dis juste, par exemple, vous disiez un bac... Et c'est très symptomatique en dessous, et vous l'avez mis entre guillemets, mais c'est tellement symptomatique du discours ambiant, en quoi un bac L, un bac ES serait en dessous.
Avec un bac S, donc scientifique, vous pouvez aller strictement partout.
Après, quand
avec
je dis
un bac
en dessous,
ES, en dessous, médecine, c'est pas gagné.
Oui, absolument. Et puis c'est le bac quand même qui ouvre toutes les portes. Il ne faut pas se raconter d'histoire et pas faire de la philosophie sur la question. À un moment donné, les jeunes, il faut le tenir aussi en langage de vérité. Le bac S peut faire des études littéraires, s'il le souhaite. Il peut faire des écoles d'ingénieurs, s'il le souhaite. Il peut faire médecine. Le bac L, il aura du mal à faire une école de médecine.
Bien
ça,
sûr.
C'est un principe
bien
de réalité. On ne peut pas philosopher là-dessus plus longtemps. Après, effectivement, à un moment donné, quand on prend la demande du jeune dès la classe de 3e de seconde, on est obligé. Quand le jeune vous dit « je veux faire médecine », on ne peut pas pas l'inviter à augmenter ses notes en SVT, en physique et en chimie.
Mais à l'inverse,
pour réussir aujourd'hui
bon...
le concours de la PACES en fac de médecine, si on n'a pas la mention bien, on n'a pratiquement aucune chance de réussir le concours. Ça, c'est pas de la philosophie, c'est un fait.
Pour la médecine, c'est un fait, mais en l'occurrence, quand le jeune dit moi, a priori, pas médecine, mais plein d'autres choses, et qu'il est bon, il va être poussé par le système éducatif et par ses parents particulièrement à faire un bac S.
Ah, après, on peut travailler sur d'autres.
Par exemple, pour
projets.
Étudier les sciences politiques, on va quand même le pousser à faire un bac S. Oui, c'est aussi la réalité sociale.
Et puis,
Emmanuel,
on peut faire un bac S, ne pas avoir le profil, ou un bac STIDD, ne pas avoir le profil pour faire médecine, et faire une licence en biologie, faire de la recherche médicale, travailler sur les vaccins et sur les effets secondaires d'un médicament sans pour autant être soignant comme un médecin. Et là, j'interviens dans le champ médical et du coup, la frustration est moins importante.
Voire même à terme, probablement, rejoindre des études de médecine puisque le système, en tout cas en France, est en train de fabriquer des passerelles. Hein, mais ça prendra encore un peu de temps. Kaba nous appelle également du Tchad à Abéché. Bonjour Kaba.
Bonjour, Samilia.
Kaba, vous nous appelez parce que vous êtes victime d'une erreur d'orientation scolaire.
Tout à fait, madame.
Donc, bac en 2015, vous aussi. Et ensuite, vous êtes retrouvé en sciences techniques de l'élevage.
Tout à fait.
Vous n'aviez pas choisi cette filière.
Je n'ai pas choisi cette filière. Allô?
Oui, et on vous écoute, vous êtes en direct. Kaba, allez-y.
Beaucoup plus. Je rêve peut-être de choisir la mathématique. Je me retrouve en sciences techniques de l'élevage que je regrette beaucoup parce que je n'ai pas trouvé un bon orientateur.
Oui. On a vraiment des gros problèmes de ligne téléphonique aujourd'hui. Hein. Semble-t-il que vous ayez du mal à nous entendre, Kaba. Mais vous voyez, Nahir, vous étiez en ligne avec nous puisque vous avez fondé ce site Afrique Campus. Énormément de jeunes qui nous appellent et qui disent « Bien sûr, je suis en études supérieures, mais ce n'était pas là que je voulais être. » Alors maintenant, on fait comment pour trouver une bretelle, une passerelle et changer de vie, Nahir?
Moi, je pense que le conseil d'orientation a un grand rôle à jouer, surtout en Afrique. Du fait qu'on a beaucoup de filières qui sont délaissées malheureusement, qui sont délaissées par défaut et qui sont délaissées aussi par manque d'envie et par manque d'informations venues des étudiants. Aujourd'hui, je prends le cas du Tchad. On a plus de 80% des bacheliers de l'année dernière qui ont fait une filière littéraire.
Ouais.
Et juste 20% en scientifique. Et
il faudrait tout simplement que la tendance s'inverse totalement en fait.
Effectivement, pour asseoir un développement, pour vraiment lancer des entrepreneurs, pour avoir une grande palette d'étudiants. Je pense qu'il faut qu'on inverse un peu ces statistiques et le conseiller d'orientation a son rôle à jouer.
C'est ce qui veut dire que quand Kaba nous appelle, 22 ans, et nous dit qu'il est profondément malheureux de se retrouver en filière sciences techniques de l'élevage, il y a un problème d'image aussi de ces filières.
Oui, je pense qu'il y a un problème d'image. Et après, il y a aussi, pour moi, ce que j'appelle, c'est le syndrome du suivisme. C'est-à-dire, on a une connaissance qui est dans l'administration, qui a réussi, on va dire, et on veut faire comme lui. Mais malheureusement, peut-être on n'a pas les outils, on n'a pas les notes qui vont avec. Et en Afrique, on est confronté à ça. À chaque fois, on a un modèle dans notre famille ou un modèle dans la société, et on veut faire comme lui, même si on n'a pas ces aptitudes-là. Et on est confronté à l'échec. Et donc, je pense que l'information, le conseil d'orientation doit mettre l'accent sur les aptitudes de ces étudiants-là et faire face à ce syndrome de suivisme, comme j'appelle.
Merci pour cette analyse sur le syndrome de suivisme, le troupeau, quoi, finalement, Nahir Abakar.
Un peu comme en France, si on parle du droit, de la psycho, entre le fantasme et le métier réel, et ce qu'on va trouver dans les premières années de fac.
Alors la psychologie filière en tension, c'est là qu'on a eu justement des tirages au sort et qui ont fait scandale. C'est très étonnant d'ailleurs parce que c'est un métier où c'est difficile, c'est saturé, c'est difficile de gagner sa vie, de trouver sa place ensuite. Comment est l'ambiance à l'heure actuelle dans les familles dont les enfants sont en terminale, alors qu'en France se profile la réforme puisque on a à l'heure actuelle une discussion à l'Assemblée nationale sur la réforme de l'orientation scolaire et que probablement on arrivera à des prérequis dans de nombreuses filières en tension à l'université. C'est-à-dire qu'il faudra montrer son dossier scolaire.
Bien sûr.
Donc on aura en partie de la sélection.
Bien sûr, on part de loin, on parle d'APB qui est cet outil,
le logiciel admission post-bac
qui ressemblait un peu, qui permettait un peu par tirage au sort d'affecter les lycéens. C'était un peu la française des jeux, si je peux dire, comme logiciel, parce que ça avait quelque chose.
Alors là, c'est fini. Vous attendez le nouveau logiciel.
Oui, on fera les bilans plus tard de cet outil-là, après que les élèves de cette année auront eu leur affectation, mais ça, les familles semblent déjà un peu plus apaisées, parce qu'il n'y a plus de hiérarchie sur les choix, il y a juste une dizaine de choix à faire sur Parcoursup.
Contre plus de 25.
Et puis, en tout cas, le gouvernement actuel s'engage à ce que tous les lycéens qui auront leur bac obtiendront une affectation, que ce soit par Parcoursup ou après Parcoursup, c'est-à-dire le nouveau logiciel qui remplace APB.
Mais davantage de pression donc sur les bulletins scolaires, sur les notes actuelles en terminale.
Oui, mais plutôt que de se retrouver finalement dans une première ou deuxième année de fac où il y aura un vrai risque d'échec, on le présage en amont et on travaille avec l'élève pour mieux l'orienter plus qualitativement par rapport à ses choix.
Un tiers de réussite en licence à l'université, c'est ça. Donc une majorité
au moins dans certaines filières.
Une majorité de jeunes qui échouent à la fin de la licence à l'université. Il nous reste quelques minutes. Si vous deviez donner les conseils principaux, à la fois aux parents et aux jeunes, là, pour y voir plus clair sur les mois qui vont suivre de décisions d'orientation.
Alors, anticiper, ça c'est pas valable pour les élèves de terminale, mais plutôt pour les autres.
Anticiper à partir de quand?
Anticiper le plus tôt possible, dès la troisième, le stage découvert des métiers, par exemple, de troisième, qui est devenu quelque chose qui n'est pas valorisé, qui peut être la première entrée dans le monde professionnel permettant d'avoir une information, se documenter au CIDJ. On a une base de données et des fiches actuelles CIDJ qui permet d'avoir un premier niveau d'information, rencontrer des conseillers et ne pas attendre la date fatidique du choix pour rencontrer un conseiller. Donc, anticiper.
Et pour vous, Juliette Abadi?
Alors, je compléterai aller sur les forums, aller rencontrer les écoles. Je dis souvent aux parents, mais quand vous faites des dîners chez vous, avec vos amis, c'est vraiment une histoire toute simple. Vous avez un élève, un jeune qui est en troisième ou en seconde ou en première ou en terminale, s'il entend tous les amis de ses parents parler de leur métier, en une à deux minutes, on sort du fantasme, on arrive à la réalité, on a un niveau d'information qui est en plus vécu.
Alors ça, c'est valable dans les milieux où tout le monde a un emploi, on va préciser.
Oui, mais en fait, tout le monde a eu ou va avoir un emploi.
On peut parler de son emploi qu'on a perdu.
Oui, oui, aussi. Et puis on peut parler de celui vers lequel on va, parce qu'on peut être en train de se former, hein, la formation tout au long de sa vie peut aider. Donc c'est, moi je compléterais vraiment l'idée d'aller chercher de l'information, c'est chez un jeune qui a moins de 20 ans, c'est compliqué, ça fait pas partie de son temps de l'adolescence, donc il faut l'accompagner. Vos structures de CIDJ, Amadou, ou les parents qui sont en front line, qui sont tout le temps confrontés à ce type de questions, sont les structures les plus accompagnatrices, et il faut les utiliser, et donc il faut que le parent soit bien armé pour pouvoir accompagner l'enfant.
Alors, on a entendu aussi beaucoup d'auditeurs qui étaient déjà orientés, qui avaient déjà plusieurs années d'enseignement supérieur et qui n'étaient pas heureux, qui voulaient se réorienter. Dans les pays anglo-saxons, il y a une tradition qui est qu'on, souvent, on fait une année de césure à la fin de la licence avant de prendre le dernier virage vers le master. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, nous, on le pensait, mais ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Ça
une année où on va travailler, on va voyager en faisant des petits jobs, enfin, peu importe.
Ou apprendre des langues, partir dans le cadre du programme Erasmus, aller chercher des compétences culturelles nouvelles, aller chercher des compétences linguistiques nouvelles, s'oxygéner l'esprit, hein, parce que parfois aussi, on l'a dit tout à l'heure, partir un an en Australie, travailler dans une ferme, revenir peut permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair.
Et puis la tendance du service civique aujourd'hui permet cette césure où on travaille, on gagne un peu d'argent
et faire des rencontres avec l'humanité aussi, mettre en situation
et l'utilité.
Eh bien merci à tous les deux, Juliette Abadi, des conseils pour les parents stressés, au secours, mon ado s'oriente, c'est paru chez Hugo et compagnie.
Merci.
Amadou Boy, merci à vous, vous êtes conseiller en orientation en insertion au centre d'information et de documentation jeunesse, vous recevez 100 rendez-vous,
c'est important de le préciser,
du lundi au vendredi.
C'est absolu. Du mardi au vendredi et les samedis de 13h à 17h.
Merci à vous, merci à toute l'équipe, Sophia Bédard, Quentin, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci aussi à Raphaël Lazizi. Lundi, 7 milliards de voisins, journée internationale des migrants. Je recevrai l'auteur d'un atlas des migrants ainsi qu'un officier de police devenu écrivain et qui a écrit un roman sur Calais, zone de non-droit. On y apprend beaucoup de choses. Il a mené une enquête. À lundi, les voisins.